Bienvenue dans Le Débat. En politique, la plus grande menace, ce n'est pas toujours l'adversaire. Parfois, c'est l'illusion de sa propre invulnérabilité.
Et c'est exactement ce qu'on observe en analysant les résultats officiels et le contexte de cette fameuse nuit du 8 juin 2017.
Absolument. Theresa May, qui était alors portée par une avance de 20 points dans les sondages, déclenche des élections anticipées. Son but ? Écraser l'opposition et négocier le Brexit en position de force.
Sauf qu'à l'aube, c'est la douche froide. Les conservateurs tombent à 317 sièges face aux 262 du Parti travailliste, un Parlement sans majorité.
Et en tant que politologue, je suis convaincue que ce désastre est avant tout le fruit d'un naufrage stratégique et communicationnel de sa part.
Eh bien, je défends une lecture bien différente. Je suis persuadé que ce résultat n'est pas qu'une simple erreur de campagne. C'est en fait l'illustration de l'impossibilité structurelle de concilier les contradictions du Brexit avec des chocs externes totalement imprévisibles.
Bon, pour comprendre ce naufrage, il faut regarder le cœur de sa promesse. Offrir un leadership, je cite, « fort et stable ».« Strong and stable ».
Le slogan répété en boucle, oui.
Exactement. C'était comme une véritable chambre forte en verre. Visuellement impénétrable, mais en réalité extrêmement fragile. Le moment où elle a opéré son revirement sur la taxe sur la démence...
Ah oui, cette réforme très controversée.
La maladresse, ce revirement est indéniable, je vous l'accorde. Mais en vous focalisant sur la communication, vous passez à côté de l'onde de choc des attentats de la Manchester Arena et du London Bridge.
Des événements tragiques, évidemment.
Oui, la campagne a été percutée par l'horreur pure. Et ces drames ont instantanément déplacé le débat sur la sécurité. Theresa May avait été ministre de l'Intérieur pendant 6 ans, et soudain, elle s'est trouvée forcée de justifier ses propres coupes budgétaires massives dans les effectifs de police.
C'est vrai que le timing était désastreux pour elle.
La chambre forte dont vous parlez n'a pas seulement été fissurée par une réforme sociale. Elle a volé en éclats sous la pression d'une crise sécuritaire qui rendait sa promesse de protection totalement creuse.
Je comprends votre point, mais cette crise sécuritaire n'explique pas à elle seule la perte de sa majorité absolue. Le vrai problème, c'est qu'elle était déconnectée de la dynamique électorale de terrain, notamment le fameux Youthquake.
La vague de jeunes électeurs.
Voilà. Jeremy Corbyn a su capter la colère d'une génération entière. Il promettait la fin de l'austérité, la gratuité universitaire. Et elle n'a pas vu venir cette mobilisation massive. Tout simplement parce qu'elle concevait sa campagne de manière complètement unidimensionnelle. Uniquement autour du Brexit.
Cette mobilisation inattendue a certes changé l'arithmétique parlementaire, je ne dis pas le contraire, mais ce changement a surtout révélé une impasse institutionnelle bien plus profonde. Privée de majorité absolue, Theresa May a dû marchander.
Avec le DUP, oui.
Exactement. Elle s'allie aux 10 députés du DUP, le parti unioniste nord-irlandais, et c'est là que le piège structurel se referme. Le Brexit reposait sur un trilemme insoluble. Il fallait quitter le marché unique européen, éviter le retour d'une frontière physique en Irlande pour préserver la paix, et maintenir l'intégrité douanière totale du Royaume-Uni.
Et en dépendant politiquement du DUP, elle perdait instantanément toute marge de manœuvre sur ce troisième point.
C'est ça. Le DUP refusait catégoriquement que l'Irlande du Nord soit soumise à des règles différentes du reste du pays. Ça rendait le fameux backstop, ce filet de sécurité européen censé empêcher une frontière dure, politiquement implicable.
Je comprends cette mécanique infernale, mais... Attendez, permettez-moi de remettre les choses dans l'ordre.
Je vous écoute.
Si elle n'avait pas mené une campagne aussi désastreuse, elle n'aurait jamais eu besoin du DUP. Cette dépendance envers les unionistes, avec ce milliard de livres déboursés pour s'assurer leur vote, ce n'est que le symptôme de sa mauvaise campagne. Ce n'est pas la cause de l'échec. En fait, elle a créé sa propre prison.
Je ne souscris du tout à cette analyse causale. Le calendrier européen tourné, l'obligeant à agir, les franges dures de son propre parti exigeaient une rupture nette. Avec ou sans majorité absolue, la contradiction inhérente au Brexit l'aurait de toute façon piégée.
Vous pensez que c'était inévitable, quoi qu'il arrive ?
Absolument. L'élection de 2017 n'a fait qu'accélérer une collision qui était déjà codée dans l'ADN même du projet de sortie.
Nous touchons là au nœud du problème. C'est vraiment la tension entre, d'un côté, les erreurs individuelles d'un dirigeant en campagne, et de l'autre, les failles structurelles face à une crise institutionnelle majeure.
Des failles structurelles qui, vous savez, n'ont fait que s'élargir depuis. Le spectre de 2017 éclaire parfaitement la situation dramatique de la droite britannique qu'on observe au printemps 2025. Un parti relégué à la 4e place, tombé à peine 123 000 adhérents, et menacé par réforme UK, oui.
Exactement. Après une nouvelle débâcle, provoquée par, tenez-vous bien, des élections anticipées sous Rishi Sunak en 2024. Le mirage de l'élection surprise pour asseoir son autorité finit souvent en suicide politique. Les conséquences de ces paris finissent toujours par s'inscrire durablement dans le paysage, et parfois, de manière très littérale. Sur le London Bridge, les immenses barrières de sécurité en acier posées dans l'urgence après les attaques de cette campagne de 2017 n'ont jamais été retirées.
Elles font désormais partie intégrante du décor.
C'est ça. Elles nous rappellent en silence cette nuit où l'illusion de contrôle a définitivement basculé. Ce sera à nos auditeurs de tirer leurs propres conclusions sur cette période complexe. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse et il y aura encore beaucoup à dire sur la question.